Bonsoir, des casques bleus de la MONUSCO ont déjoué la nuit de mercredi à ce jeudi une attaque de la milice CODECO contre le site des déplacés de Lala dans le territoire de Djougou en Ituri. Alerté par des habitants et des coups de feu provenant du dit site des déplacés, une patrouille des casques bleus bangladeshi de la base de Bayo a été déployée autour du lieu vers 1h du matin, rapporte la MONUSCO en Ituri. Sur place, l'équipe de patrouille a échangé avec les FRDC qui ont confirmé le mouvement suspect de la CODECO et les coups de feu tirés depuis la zone. Pour sa part, le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, général-major Peter Chirimwami, a recommandé samedi 23 septembre aux milices actives dans sa province de rejoindre le processus de paix via le PDDRCS. Il a fait cette recommandation dans son adresse devant des dizaines de combattants issus des groupes armés et leurs responsables au centre de Mubambiro à une vingtaine de kilomètres de Goma. Général-major Peter Chirimwami a estimé que leur intégration va donner la chance autour de la paix et la sécurité et faciliter le retour des déplacés dans leur milieu de vie. Plus d'une année après l'adoption du plan stratégique national de la mise en œuvre, où en est-on avec le processus PDDRCS? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons Tommy Tamboué, coordinateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation connu sous le sigle PDDRCS. Tommy Tamboué, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de venir répondre à notre invitation une fois encore ce soir. Placide Nzilamba est aussi de la partie. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Placide Nzilamba, vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu. Et enfin, Chaubert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste en sécurité et géopolitique et sociologie militaire. Chaubert Agenonga, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Des casques bleus de la MONUSCO ont déjoué la nuit de mercredi à jeudi une attaque de la milice CODECO contre le site des déplacés de Lala dans le territoire de Djougou en Ituri, alerté à la fois par des habitants et des coups de feu provenant du dit site des déplacés. Une patrouille des casques bleus bangladeshi de la base de Bayo a été déployée autour des lieux vers 1h du matin, rapporte la MONUSCO en Ituri. Sur place, l'équipe de patrouille a échangé avec les FRDC qui ont confirmé le mouvement suspect de la CODECO et les coups de feu tirés depuis l'endroit. Les détails avec Sifa Maguru.
D'après les porte-parole du gouverneur, le message principal du commandant des opérations militaires et gouverneur AI était d'inviter ses responsables des groupes armés à répondre à l'appel du président de la République qui veut que le Nord Kivu retrouve la paix. Ces responsables des groupes armés ont tous répondu positivement à cet appel du chef de l'État, a affirmé le porte-parole du gouverneur. Au nom de ses pairs, commandants des groupes armés, le général autoproclamé Guidon Simurai a exprimé leur disponibilité à joindre leurs efforts au processus de pacification du pays, mais aussi à rejoindre la réinsertion sociale. Guidon Simurai, commandant du groupe armé Nduma Defense of Congo Rénové, NDCR, est également présenté comme coordonnateur de groupes armés appelés communément Wazalendo. En outre, la plupart de ces groupes se sont mués en une plateforme des défenseurs de la patrie selon leurs propres termes. Ce chef de groupe armé NDCR a également appelé les autres groupes à leur emboîter les pas en cherchant la paix au Nord Kivu. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Tommy Tamboué, coordinateur du programme du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. On a tout de suite envie de vous poser la question, une année après la mise en œuvre du programme que vous coordonnez, où en est-on? Mais avant que vous ne répondiez à cette question, votre commentaire sur cette attaque annulée heureusement par la MONUSCO sur le site des déplacés par la CODECO.
Oui, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs et également saluer le professeur Jobert Angenonga et M. Placide Nzilanda qui est avec nous en ligne. Je voudrais, de prime abord, remercier cette initiative de nous avoir invités à cette émission ce soir pour que nous puissions échanger sur la problématique de l'insécurité à l'est de la République du Congo. Il faut retenir ici qu'il y a trois situations à considérer dans la question de groupes armés. Il y a la situation particulière du Nord Kivu. Il y a la situation particulière de l'Ituri. Mais également, il y a la situation l'Ituri, le Sud Kivu, le Maniema. Mais également, il y a la situation particulière, par exemple, du Tanganyika. Ça fait trois situations qu'il faut considérer et à traiter séparément. Alors, s'il faut revenir sur la question des attaques, il faut comprendre une chose. Qu'en Ituri, actuellement, nous sommes en train de revivre un mouvement de relance des activités des groupes armés. Et nous observons de plus en plus, depuis quelques jours, la relance des incidents entre les groupes armés d'abord, et même, il y a des groupes armés qui sont réfractaires au processus de désarmement, de démobilisation et de relèvement communautaire, mais également, il y a des groupes qui se sont engagés dans le processus. Et dans le cause de du regain ou de la reprise des hostilités ces derniers temps, nous pouvons constater facilement que de plus en plus sur RN27, il y a des attaques contre l'opposition des FARDC. C'est-à-dire, vous avez des éléments réfracteurs qui ont tendance à vouloir chasser le FARDC et à réoccuper la RN27 pour reprendre leur activisme en érigeant de barrières illégales, mais également en reprenant les activités d'économie de guerre, comme l'exploitation illicite de minerais. Vous avez les activités ici de la pêche, ce que nous appelons le coupage de bois, la fraude de cacao et la fraude douanière. Ce sont là les activités que nous avons constatées. Mais également, à cette période préélectorale, nous avons constaté également une certaine influence des communautés qui entraîne un regain de violence. C'est notamment certains notables, les intellectuels, les députés, les candidats à la députation nationale, à la députation provinciale, qui souhaitent utiliser le même groupe armé dans le but de se positionner, d'avoir l'électorat, en utilisant les communautés comme étant la base pour laquelle les élections doivent leur être favorables. Et donc aujourd'hui, je peux dire que ce qui est dit, c'est une vérité. Il y a un regain de violence qui a commencé, mais nous sommes en train d'observer, l'armée est à pied d'œuvre, est en train de se déployer. Nous verrons d'ici quelques jours, cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas il y aura un nouveau redéploiement des troupes pour essayer de contrer cette nouvelle hostilité ou regain des hostilités dans cette partie du pays.
Est-ce que ce type d'opération, que ce soit de la CODECO ou d'autres groupes qui pourraient tenter de faire la même chose, est-ce que votre programme pouvait le prévoir, l'avait prévu? Est-ce qu'on aurait pu éviter, grâce au PDDRCS, ce type d'action des groupes armés?
Non, il faut comprendre une chose. Le PDDRCS est un programme communautaire, ce qui fait que les études qui ont été menées dans le sens de mettre sur pied le programme du PDDRCS en correction du programme UPNDD et du STAREC ont tenu compte de la dimension communautaire et ils travaillent sur la question d'un conflit communautaire. Mais nous savons également, malgré la sensibilisation, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à Ituri, il n'y a pas eu la sensibilisation. Il y a eu la sensibilisation de groupes armés. Vous vous souviendrez d'ailleurs du processus du dialogue de Haru qui a réuni tous les groupes armés. Nous avons amené les groupes armés à Guéti. Nous avons eu le dialogue de l'ITA. Nous avons eu le dialogue à Drodro. Nous avons eu des dialogues à Pimbo. Nous avons eu le dialogue à Iga Barrière, à Lopa. Nous avons eu le dialogue à Mwanga, à Kunda. Nous avons eu le dialogue à Drele, à Ndele. Nous avons eu le dialogue à Mambasa. Nous avons eu le dialogue à Nyakunde. Et tous ces dialogues, c'était pour la sensibilisation. Et nous avons vu la plupart des groupes armés s'engager vers le programme de désarmement, de démobilisation, du relèvement communautaire et de stabilisation. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui bloque, quelle est la cause du manque d'érudition, ce qui est important aujourd'hui. Je venais de vous dire la première cause, l'influence communautaire des communautés. Chaque communauté a ses notables, ses intellectuels, ses députés, ses sénateurs, ses ministres, et j'en passe. Et cela, pendant cette période préélectorale, il y a des calculs de positionnement au niveau de la base. Et chacun dit, si moi je remets l'arme, et je dépose les armes, et je me rends au FRDC, puis au PDDRCS, quid de ma communauté? Qui doit la protéger? Si moi qui suis l'Hindou, je dépose les armes, et si demain les Zaïre venus de la communauté Hema, ils viennent m'attaquer, qu'est-ce que je dois exposer la communauté? Il y a également un deuxième mobile. Donc, ici au niveau des communautés, je n'ai pas parlé de toutes les communautés. Donc, il y a cette question qui est très capitale pour toutes les communautés. Mais également, il y a l'économie de guerre qui s'est développée depuis un certain temps dans la province de l'Ituri, où vous avez les groupes armés sont déjà habitués à une économie de guerre à travers l'exploitation illicite des minerais. Vous allez voir que la plupart des puits, la plupart des carrés miniers sont occupés par les groupes armés.
Tony Tamboué, effectivement, vous nous indiquez un certain nombre de causes et vous avez raison. Mais si on s'en tient ne fût-ce que aux deux principales qui sur lesquelles vraiment beaucoup s'appuient, entre autres justement l'économie des guerres, mais aussi le souci de se défendre entre membres de la communauté. Mm-hmm. Et vu que vous avez fait de nombreux dialogues avec presque tous les groupes armés, là on parle que de l'Ituri, qu'est-ce qui a manqué justement? Vous avez posé cette question, mais peut-être que vous avez la réponse. Qu'est-ce qui, selon vous, manque pour qu'on ait les redditions et qu'on ait même une complète démobilisation et réinsertion de tous ces groupes armés?
Merci beaucoup. Nous avons, à notre niveau, du PDDRCS, les gens peuvent vous dire, peut-être le PDDRCS n'a pas réussi, n'a pas fait la bonne. Nous, après tous ces dialogues, nous avons commencé les travaux nous avons identifié les sites de désarmement, nous avons identifié les sites de démobilisation, nous avons commencé à ériger les sites, donc la construction, pour ne pas dire demain, non, il n'y a pas des endroits où pour que ces gens se rendent, mais nous avons construit. Si vous allez aujourd'hui à Diango, vous allez vous rendre compte que nous avons construit des bâtiments où toutes les infrastructures sont là. Vous avez l'eau, vous avez toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait de l'hébergement et commencer la réinsertion. Nous avons mis en place des projets qui sont en train d'être expérimentés. Il y a un projet pilote aujourd'hui qui a commencé avec l'OIM, qui consiste à travailler sur l'IMO, à travers les routes de l'essai agricole, et où les ex-combattants doivent toucher de l'argent chaque jour. Donc ça, ce sont les éléments pratiques qui vous montrent que le PDDRCS a mis en place des projets et a mis en place des conditions. Mais maintenant la question, pourquoi il y a regain de... Je viens d'expliquer les regains. Il y a certains qui sont omnibulés par ces activités
économiques
et qui ne voyaient pas l'intérêt d'aller toucher par exemple 3 à 5 dollars et qui sont intéressés à avoir l'argent frais qui vient de l'exploitation, qui vient de barrières illicites et qui vient de plusieurs activités.
De toutes ces activités.
Voilà.
Merci, merci.
Maintenant, si vous voulez que je réponde, après avoir fait ce travail, aujourd'hui nous comprenons que le dialogue doit continuer. Mais les opérations doivent reprendre.
Merci beaucoup, Tony Tambwe. Nous sommes ensemble encore dans cette émission pour continuer à analyser et à comprendre cette problématique. Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu, comment analysez-vous cette tentative de la CODECO, qui est un groupe pour lequel les autorités travaillent beaucoup pour sa reddition et pour la fin de son activisme? Comment comprendre cette action de la CODECO et comment expliquez-vous justement que la MONUSCO ait eu le temps et la justesse possible pour annihiler cette attaque qui pouvait être fatale?
Je dois aussi, comme mon prédécesseur, saluer le co-débatteur, d'abord Tommy Tambwe, qui est le coordonnateur national du PDDRCS, et même le professeur Aguenonga, et tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent à pareil moment. Et nous dire vrai par rapport à la question, c'est dire que nous sommes en face d'un programme qui n'aspire pas confiance. Et il faut le dire vrai. Parce que si aujourd'hui les armes continuent à crépiter, c'est parce que ce programme n'aspire pas confiance. Et il faut le dire de vive voix pour que le gouvernement comprenne qu'il y a un problème déjà. Alors, si aujourd'hui les groupes armés continuent d'être actifs dans nos milieux respectifs, que ce soit en Ituri, que ce soit au nord Kivu, que ce soit au sud Kivu, et même au Maniema, et même dans la province de Tanganyika où la MONUSCO a fait la remise reprise avec les autorités, c'est parce que tout simplement, on n'a pas mis en place un programme qui tient compte ou qui a bien analysé les causes profondes des conflits armés et guerres à répétition, ici à l'est de la République. Et ça, il faut le dire vrai. Aujourd'hui, si il faut le dire vrai, comme le prédécesseur l'a dit, c'est dire que si les groupes armés n'ont pas confiance au processus, c'est parce que ces groupes ne se retrouvent pas dans les animateurs de ces processus. Et la société civile au nord Kivu, au sud Kivu, même au Maniema, et même au Tanganyika, ont toujours de créer ce problème-là.
Le problème, c'est le programme lui-même, les idées, les termes de référence de ce programme, ou c'est les animateurs?
Il faut le dire vrai. Le programme doit être refait dans tout son complet. Et d'abord, ce sont les idées, ce sont les animateurs, et après, ce sont ceux-là qui doivent l'appuyer. Ça, c'est ce qu'il faut vous le dire vrai.
Mais ce programme, Placide Ndilamba, vous gardez la parole, mais ce programme, on vient de l'entendre, a un dialogue permanent avec ces groupes armés, et les responsables de ces groupes armés viennent répondre. Pourquoi ne dénoncent-ils pas et les termes de référence, les idées et les animateurs avec qui ils échangent?
Donc peut-être le contexte où ils devaient le faire n'est pas bien approprié. Vous savez, il y a une sorte de calcul politique qui doit se développer déjà devant le problème. Parce que tout simplement, il faut dire vrai. Les groupes armés l'avaient dit à Nairobi. Même ici, la population et la société civile le décrit chaque jour. Que l'animateur lui-même du programme fait déjà un problème. Parce que lui-même a appartenu au groupe protagoniste. Et ça, on l'a toujours décrié, la société civile Nord Kivu, du Maniema, du Sud Kivu, l'a déjà décrié bien longtemps. Les chefs de l'État les connaissent bien. C'est un problème qui a été soumis. Lui-même, Tommy, qui est avec nous dans ce débat, les connaît bien. Est-ce qu'il comprend que quelqu'un peut venir lui soumettre ses armes? Moi, je dois vous dire ici, même si le programme d'autres programmes ont échoué, avec le UPN-PNDDR qui a échoué, nous avons été même dans des forums pour discuter pourquoi les échecs. Et certains des animateurs nous ont dit, on a mené les combattants, par exemple, 30 000 et plus, mais qui viennent avec 3 000 armes. Donc 10% des armes par rapport au nombre de combattants. Ça montrait l'hypocrisie devant le problème. Alors, nous devons quitter cette hypocrisie en amenant des personnes qui peuvent bien mettre en place un programme crédible et qui attire tout le monde devant lui.
Placide Ndilamba, vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu, j'imagine que lorsqu'il y a tous ces dialogues, tous ces tête-à-tête, vous êtes même associé, peut-être pas à titre individuel, mais votre organisation, et en tant que société civile, je crois que vous avez le droit de rédiger vos réflexions, vos analyses, votre monitoring aux autorités et à toutes les parties prenantes. Est-ce que vous le faites? Si vous le faites, quelles sont les réponses que vous recevez, les vraies réponses adressées aux vraies institutions ou aux vraies autorités de notre pays, et leur réponse, c'est quoi généralement?
Effectivement, c'est là où je voudrais qu'on y arrive. Nous avons déposé même nos éléments de réponse, même à la table ronde, sur l'évaluation de l'état de siège, parce que tout ça, ça rentre dans les crises qui secouent l'Est de la République. La commission levée état de siège a demandé à CRI que soit d'abord changé l'animateur principal ou le coordonnateur principal du programme PDDRCF pour l'aspirer confiance parce que il est soupçonné d'avoir appartenu à des groupes armés.
Ça vous l'avez dit.
Son protagoniste, ainsi que ses vices.
Vous l'avez dit.
Je rentre maintenant dans les causes profondes.
Oui, allez-y très rapidement, s'il vous plaît.
Je rentre dans les causes profondes, monsieur le journaliste.
Allez-y très rapidement. Il faut toujours rentrer dans les causes profondes. Allez-y.
Effectivement, il faut faire bien l'analyse des contextes. Et l'analyse des contextes démontre que le contexte du Nord Kivu n'est pas le contexte de l'Ituri, n'est pas le contexte du Sud Kivu. Et il faut y rentrer bien. Par exemple, à ce moment même, si vous venez avec un programme de démobilisation au Nord Kivu, qui va vous écouter? Parce que tous et toute la population sont concentrés sur la guerre du M23. Pensez-vous que ce programme va passer? Parce qu'au même moment, quand même, quand la situation était tellement chaude dans les mois passés, les autorités provinciales avaient pris l'initiative de retourner tous les combattants chez eux. parce qu'ils trouvaient que l'ennemi pouvait les récupérer et les utiliser ici au nord Kivu.
Placide Nzilamba, je comprends.
Placide Nzilamba,
permettez qu'il y ait débat. Permettez qu'il y ait débat, s'il vous plaît. Je comprends votre position. Vous avez tout à fait le droit d'être sceptique, mais ne prenons pas les conclusions personnelles que nous pouvons avoir pour vérité d'évangile. Les débats, là où partout il y a conflit, je crois qu'il y en a, certains ne sont pas brandis sur la voie publique, d'autres oui. Votre argumentaire qui consiste à dire que là où il y a la guerre ou une préoccupation première, les autres préoccupations n'ont pas de place, est quelque peu discutable. Mais ça fait partie du débat et nous reviendrons à vous tout à l'heure. Cher Chaubert Adenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste en sécurité, en géopolitique et sociologie militaire, vous allez donner toute votre analyse, tout votre avis hein, sur ce qui s'est passé entre la CODECO et la MONUSCO et le travail de PDDRCS par rapport à l'activisme de tous ces groupes armés. Mais vous pensez que si la CODECO, par exemple, et la plupart des groupes armés avec qui sont impliqués dans les programmes de démobilisation, si cela n'aboutit pas encore, c'est entre autres seulement pour les raisons qui ont été données ici par Tommy Tamboué, entre autres la recherche facile de l'exploitation des minéraux ou le souci de se défendre en communauté, ou encore, comme vient de le dire ici Placide Nzilamba, c'est parce que et le programme PDDRCS, par exemple, et d'autres, ne sont pas bien conçus ou que les animateurs de ces programmes sont contestés.
Oui, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que ce n'est pas, l'accès aux ressources naturelles qui doit être considéré comme la cause de violence. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Tommy ou Shindy. Donc, la situation qui prévaut actuellement est typiquement celle de la faiblesse de l'autorité de l'État. Vous savez que dans toutes les zones où CODECO est active, il n'y a pas la présence de l'autorité de l'État. Et j'en profite pour dire ici que, avec la crise du M23, eh bien, le gouvernement a décidé de dégarnir plusieurs positions militaires en Ituri pour renforcer les unités des FADC qui combattent le M23. Ça doit être très clairement dit. Et d'ailleurs, c'est là où il n'y a ni service de sécurité, il n'y a ni service administratif où CODECO est en train d'opérer. Et du coup, on s'est dit que si l'État pouvait prendre des dispositions, effectivement, pour redéployer les militaires, eh bien, ils vont mettre un terme à l'activisme des groupes armés. Ça doit être très clairement dit.
Alors, Professeur Agenonga, vous gardez la parole. Vous gardez la parole, mais est-ce que ce n'est pas un peu sévère? Oui. Vous gardez la parole, mais est-ce que ce n'est pas un peu sévère de considérer qu'il y a absence de l'autorité de l'État à Ituri, alors que c'est une province qui est quand même sous état de siège? Donc, on imagine qu'il y a quand même un certain renforcement de la présence de l'autorité de l'État là-bas, non?
J'ai été fraîchement à Ituri. Je vous dis que des entités entières, je vous prends l'exemple du secteur de Walendu Piti. J'y ai été il y a 2 mois seulement. Aucune position militaire. Ça, je le dis. J'y ai été. Et d'ailleurs, toutes les zones minières qui se trouvent au nord de la ville de Bunia, la région de Mungwalu et tout autour, vous savez que les groupes armés qui sévissent là-bas, effectivement, ce sont eux qui contrôlent tous les puits de minéraux. Effectivement, ils contrôlent les puits de minéraux, mais il n'y a ni militaire, il n'y a ni policier. Vous comprenez? C'est ce qui laisse libre cours, n'est-ce pas, à l'activisme de ces groupes armés. Alors, revenons maintenant sur les causes profondes, effectivement, de la difficulté de la mise en œuvre de la stratégie du PDRCS. Vous savez que c'est depuis mars 2022 que le PDRCS a présenté une stratégie nationale, je pense, de la mise en œuvre du PDRCS. Et c'est depuis le mois d'avril que le PDRCS a lancé le site pilote à Diango, en Ituri, à 10 km à l'ouest de Bunia. Mais le lancement de ce site nous a permis de comprendre les dysfonctionnements profonds auxquels le PDRCS est en train d'être confronté. Le premier dysfonctionnement, c'est que le PDRCS navigue à vue sans aucune planification. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que jusqu'à présent, j'étais en Ituri, le PDRCS ne disposait même pas de plan opérationnel. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que le PDRCS n'a pas de données techniques sur le nombre de groupes armés actifs, j'ai été en Ituri, sur le nombre d'armes qu'il faudrait collecter, et vous savez que la plupart des groupes armés qui sont actifs en Ituri opèrent majoritairement avec des armes blanches, et jusque maintenant, le PDSS ne sait pas comment est-ce qu'on pourrait effectivement prendre en charge cette question des groupes armés qui doivent être désarmés, mais qui se présenteront avec des armes blanches. Alors, le deuxième point, c'est le déficit de moyens. Et Tommy Outamou a parlé tout à l'heure du défi de Diango. Et vous savez, sur le site de Diango qui a été lancé, c'était un site pilote. Et ce site n'a qu'une capacité de 1000 combattants seulement. Alors qu'en Ituri, on estime à plus de 20 000, selon d'ailleurs les statistiques du PDSS, on estime à plus de 20 000 le nombre de combattants candidats au DDR. Mais c'est plus que ça, parce que déjà, nos estimations d'il y a deux ans étaient déjà bien au-delà de 20 000 combattants. À cela, je voudrais ajouter, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Tommy Ushidi qui parle des groupes réfractaires et qui parle aussi de tous les processus qui ont été lancés. C'est là où je pourrais rejoindre Placide. Effectivement, il y a un déficit, je pense, d'appropriation du programme du PDSS. Il y a aussi les animateurs qui ne suivent pas confiance. Vous savez que lors de la dernière session de Nairobi qui s'est tenue entre novembre et décembre 2022, eh bien, tous les groupes armés étaient unanimes. Ils n'ont pas confiance aux animateurs actuels du PDSS. Je voudrais même aller plus loin pour dire que les bailleurs de fonds n'ont pas non plus confiance aux animateurs actuels du PDSS. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu donner aucun rang, n'est-ce pas, pour le PDSS. Alors que la réussite de ce processus dépend aussi de l'accompagnement de bailleurs, de fonds. Voyez-vous, un programme aussi complexe que le PDSS, c'est un programme pour lequel il faut quand même un soutien, un appui technique et financier des bailleurs de fonds qui ont décidé finalement, faute bien sûr de cette confiance, de canaliser les fonds vers les structures qui travaillent directement avec les communautés locales. Je pense, Tommy Ushindi a parlé de l'OIM, il y avait aussi le Fonds social et aussi la fondation Panzi de Denis Mukwege. Et enfin, je voudrais aussi ajouter le fait que jusqu'à aujourd'hui, vous savez, le PDSS est devenu une bureaucratie pléthorique. Avec plus de 100, je pense que Tommy Ushindi se rappelle encore de dernières décisions qu'il a prises. Il a nommé plus de 100 agents aux différents niveaux, je pense, de la coordination du PDSS. Mais imaginez-vous, la prise en charge déjà de ces agents devient un défi. C'est-à-dire le PDSS, en lui seul devient, n'est-ce pas, une bureaucratie budgétivore. Il faudrait des millions rien que pour la prise en charge de ces agents et au détriment maintenant, voyez-vous, du programme. Mais des agents qui ont été, je dis bien, qui ont été nommés, mais qui n'ont pas été recrutés sur base d'un concours.
Merci.
Donc, du coup, ça pose énormément de problèmes. Il y a un problème.
Vous l'avez dit plusieurs fois, professeur Chobert Agnonga, professeur à l'université de Kisangani. Nous allons aussi donner la place à nos auditeurs de donner leur avis. Ensuite, Tony Tambwe pourra ramasser l'ensemble des réactions auxquelles il veut donner des compléments de réponse. Alors, pour vous, Tommy Tambwe, coordinateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, nous allons écouter, en plus des autres réactions auxquelles vous voulez répondre, le commentaire de cet auditeur qui nous appelle de Béni. Je vais le lire. Il s'observe une léthargie dans la mise en œuvre efficace de ce programme, mais aussi du processus de désarmement PDDRCS, mais plutôt dans le pays originaire des rebelles, pour ne pas dire le Rwanda. Voilà, il est un peu bref, mais voilà un peu la position de cet auditeur qui nous appelle depuis Béni. Quelle est votre réaction après la réaction des autres?
Merci beaucoup, ça me fait tout de même la joie de pouvoir discuter sur certaines questions qui sont parlées parfois par certaines personnes. Mais je voudrais revenir sur la question de confiance, que le programme n'inspire pas confiance. Et il a parlé et aux bailleurs, et il a parlé également même des animateurs. Retenez d'abord la première chose. Lorsque le programme a été mis en place, nous sommes passés par les états des lieux. ces états des lieux qu'ils nous ont donnés à travers les ateliers dans chaque province et dans des territoires où toutes les parties prenantes étaient associées, y compris la société civile. Ici, je voudrais que nous sortions de la politisation. Parlons du programme. Lorsque nous avons terminé à travers les 5 provinces prioritaires, avec l'appui, parce qu'ils parlent qu'ils n'ont pas confiance, mais nous avons été accompagnés par la MONUSCO, nous avons été accompagnés par toutes les agences des Nations Unies, et nous avons été aussi accompagnés par le bailleur. Ce qui fait voir que, en tout cas, il y a un mensonge flagrant, soit par connaissance ou par méconnaissance ou à volonté. Lorsque nous avons terminé les états des lieux, nous sommes partis pour préparer avec la communauté internationale la stratégie nationale. Mais imaginez-vous la stratégie nationale où la Banque mondiale a participé, l'Union européenne a participé, toutes les agences, les États-Unis, toutes les agences des Nations unies ont participé. Est-ce que vous pouvez dire que la stratégie n'inspire pas confiance? Est-ce que vous pouvez dire, parce que même la société civile a participé, les chefs coutumiers ont participé, tous les gouverneurs de province ont participé, les administrateurs de territoire ont participé, et vous vous dites, non, non, ça n'inspire pas confiance. Le produit est sorti, nous l'avons amené dans l'adoption avec toutes les parties prenantes, après avoir récolté les avis techniques de chaque partie prenante. Et par la suite, ça a été validé le 4 avril 2022. Après avoir été validé, il a été procédé au recrutement des animateurs de coordination provinciale. Ils sont passés au test. Et après les tests, parce que peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y avait test. Ils ignorent. Mais il y avait test au palais de la nation, au cabinet du chef de l'État. Il y avait test. Et ils sont passés au test. Ceux qui avaient été recrutés ont été retenus. Et après avoir été retenus, ils ont été nommés par ordonnance du chef de l'État. Ils n'ont pas été recrutés par M. Tommy Tambo. Autre chose. Dès que nous avons terminé, nous avons confié aux coordonnateurs provinciaux d'aller élaborer maintenant le plan opérationnel provincial. Ça a été encore un processus qui a commencé depuis les chefferies, territoire, jusqu'au niveau des ateliers au niveau de chaque province.
Bref, monsieur le coordinateur, oui, on n'aura pas, tout le temps pour y arriver. Bref, est-ce que vous voulez dire que le prétexte selon lequel le programme ou les animateurs du programme n'est pas un prétexte?
J'arrive. Ah, oui. Maintenant, s'il demande s'il y a les places opérationnelles, il y a les places opérationnelles provinciaux pour les 5 provinces. Autre chose, à ce qui concerne les animateurs dont il parle, il reproche à l'animateur principal de Tommy Tambo d'avoir été dans le mouvement armé. Qui n'a pas été dans le mouvement armé? Tous ces animateurs qui sont aussi à la République, qui n'ont pas été dans le mouvement armé. Et cela est directement ou indirectement. Même eux qui sont dans la société civile, ils sont passés, ils étaient sous contrôle de qui? Ils ne sont pas été sous contrôle sous le mouvement armé. Avançons ici, parlons des idées, avançons. Les animateurs qui sont là, quel que soit ce qu'ils peuvent dire, même s'ils n'ont pas de mérité. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Il y a des démobilisations. Nous avons des chiffres. Quand ils parlent des moyens, mais pourquoi nous traitons, s'ils parlent que nous traitons, pourquoi nous traitons avec l'Union européenne et l'argent que l'Union européenne nous donne? Et l'argent que maintenant la Banque mondiale nous a donné. Nous sommes en train de préparer maintenant les documents. Ça vient d'où? Ça ne vient pas des païens. Avançons.
Tony Tambwe, on va encore vous redonner la parole pour clôturer les émissions. Vous aurez encore un autre temps de...
Il n'y a pas... Laisse-moi terminer.
Allez-y.
Il n'y a pas de dysfonctionnement. Parce que nous connaissons, nous avons le plan opérationnel, nous connaissons les nombres prévisionnels pour chaque province, nous avons la cartographie des groupes armés, nous avons la cartographie des conflits, nous avons... Je vais vous donner ce document qui vous donne tous les chiffres, chiffres nécessaires.
Merci, nous avons déjà eu dans une autre version, mais nous allons encore continuer de lire celui-là. Et nous aurons le temps de revenir sur ça pour compléter d'autres informations pour nos auditeurs. Mais vous allez avoir une dernière occasion de vous exprimer et de donner les compléments d'informations que vous avez encore là. Le temps pour nous de donner justement aussi à Placide Nzilamba l'occasion de rebondir. Il est membre de la société civile du Nord Kivu et... Il va réagir après qu'on ait écouté cette intervention d'un auditeur de Goma.
Bonsoir Radio Okapi, je suis Maître Meshak Mshagalusa depuis la ville de Goma. Nous saluons cette intervention de la MONUSCO. Dis-moi si depuis tous ces temps, la MONUSCO était dotée d'une mission offensive, la problématique des groupes armés devrait déjà trouver solution en RDC. Nous espérons que cette intervention n'est pas venue juste pour calmer la pression du gouvernement congolais concernant les départs de la MONUSCO fixé à la fin de cette année. Pour ma part, les groupes armés ne peuvent jamais comprendre notre langage que la force. Les recommander à déposer les armes, c'est une chose, mais obéir à ces recommandations devient une autre, pendant qu'aucune garantie de leur prise en charge dans le processus de désarmement n'est pas encore assurée. Merci.
Merci Placide Nzilamba, votre réaction déjà à cet auditeur, mais aussi si vous voulez ajouter quelque chose à l'ensemble de ce que les autres ont dit, mais très très rapidement.
Alors, je remercie d'abord l'auditeur et dire que nous tenons compte de sa réaction, mais il faut rentrer dans ce qu'on appelle le pratique quotidien de la MONUSCO. C'est toujours des annonces d'avoir déjoué, d'avoir fait quoi que ce soit. Mais à notre niveau, c'est dire c'est remercier d'abord les casques bleus qui ont déjoué cette opération, mais dire à notre gouvernement que la sécurité des Congolais relève de sa responsabilité. Elle ne doit être toujours conditionnée ou rester entre les mains de ceux qui sont venus nous aider. Alors, à mon niveau, c'est rentrer chez vous pour vous dire que tout ce que Tommy nous a présenté là-bas, Tommy lui-même est le problème, et il faut bien le souligner. Il vient du M23, il vient du CNDP, il vient aussi de la LEC. Donc, les groupes armés qui l'ont connu dans des négociations ne peuvent pas accepter de remettre leurs armes entre ses mains.
Placide Nzilamba, peut-être que vous avez forcément raison, mais permettez-moi de vous relancer en disant que, effectivement, lui-même, il vient de le citer ici, monsieur Tony Tambwe, que si sa tête ne plaisait pas, s'il n'était pas à sa place et si les programmes ne convenaient pas, tous les gros bailleurs qui sont soutenus par les grosses puissances internationales ne le soutiendraient pas. Et les autorités de la RDC ne le soutiendraient pas. Est-ce que vos arguments ne sont pas un peu faibles devant toute cette réalité qui est plus solide?
Non, nos arguments seraient faibles si les groupes armés se seraient rendus entre ses mains.
Oui, mais
le groupe armé de mains réactifs sur le terrain, et il faut le dire, écoutez,
ce n'est pas,
en tout cas,
vous avez la parole.
Parfois nous coupe. Est-ce que vous pouvez nous laisser parler?
Placide Nzilamba,
effectivement, laissez-nous parler.
Placide Nzilamba, c'est une émission de débat. J'ai la responsabilité de distribuer la parole. S'il vous plaît, ne montez pas le ton. Nous sommes tous ici des responsables, oui. Donc nous allons parler calmement. Vous avez vos arguments, oui. Je vous relance, je fais la même chose pour les autres. Je vous dites que vous donnez vos arguments, je montre les arguments des autres et je vous pose la question si les autres aussi n'ont pas raison, il ne faut pas vous énerver.
Non, il n'y a pas à s'énerver, effectivement. Il faut quand même le dire vrai. Tommy le sait lui-même qu'il demeure un problème pour ce programme. Et tous ces bailleurs qu'il dit qu'ils sont en train de venir, est-ce que le problème a été résolu? Le problème n'a pas été résolu, les groupes armés continuent à tuer nos populations. Et il faut le dire vrai devant
okay. Donc selon vous,
les Codeco,
Placide, s'il vous plaît.
Les Codeco bougent pour aller tuer, même les déplacer. Effectivement, c'est parce que on n'a pas trouvé les causes profondes de leur guerre. Et c'est pourquoi nous, on est en train de dire, est-ce que ce programme a été constitué pour faire des analyses? C'est pourquoi nous, les vraies analyses devaient encore être reconstituées pour quand même assimiler une bonne leçon et dire tout ce qui a fait à ce que les autres programmes échouent ne soit pas encore la même cause pour que ces programmes échouent. Et c'est pourquoi nous avons demandé à maintes reprises au gouvernement de la République pour dire au Premier ministre, même au Président de la République, que nous devons nous asseoir pour faire des séances d'analyse de vraies causes profondes de toute la récurrence des guerres qui nous équipent aujourd'hui et même des conflits armés.
Merci.
Aujourd'hui, il faut rentrer dans le contexte. Et je rentre dans le contexte aujourd'hui.
S'il vous plaît, Placine Zilamba, s'il vous plaît, permettez à cette émission d'être un débat et pas un réquisitoire que vous voulez faire tout seul. Votre idée a été entendue. Vous dites des choses qui sont aussi contestables, il faut l'admettre. Les informations que nous avons aussi, et je vous le dis à votre intention et à ceux des auditeurs, sans prendre parti pour personne, nous savons qu'à Moubambiro, par exemple, il y a eu des mobilisations de plus de 1000 membres des groupes armés, et comme l'émission a un temps qui est limité, je ne peux pas vous faire la litanie des informations qui sont officielles et qui montrent qu'il y a eu des mobilisations et redditions dans un certain nombre d'endroits. Mais votre idée a été entendue. Nous allons passer la parole à Chaubert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste en sécurité géopolitique et sociologie militaire. Ensuite, nous allons faire un dernier tour de table pour clôturer cette émission.
C'est Maître Dodette Oyela Tokinda depuis Kisangani, province de la Tchopo. À mon humble avis, je pense que toutes les stratégies dont le gouvernement congolais met en place restent inefficaces et nécessitant ainsi le changement des fusils d'épaule. Au clair de ce qui se passe à l'est de la RDC depuis les décennies, le processus PDDRC-S n'est pas adapté, entendu que les rebelles sont de plus en plus en position de force. Or, ce processus ne peut être opérationnel qu'avec l'adhésion des groupes rebelles, laquelle adhésion n'est possible que si les rebelles sont en position de faiblesse et non dans le contexte actuel où le pouvoir n'arrive pas à imposer aux groupes rebelles la reddition. Donc, plus le gouvernement restera dans ce même système de jeu, plus également ces rebelles lui fera assister à ce théâtre interminable.
Chaubert Aguenonga.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons reproché au PDRC dans ses stratégies de communication. Le PDRC disait aux groupes armés, non, écoutez, le processus est totalement volontaire. Et nous, on a dit que le PDRC était en train de pêcher systématiquement. Parce que on devrait absolument allier la carotte et le bâton. C'est-à-dire dire très clairement aux groupes armés que, voilà, on vous laisse, par exemple, le délai de un mois, vous allez vous rendre volontairement. Mais si vous ne le faites pas, vous serez considéré comme étant des hors-la-loi et vous serez traité comme tel. C'est-à-dire qu'on passe à la vitesse supérieure, puis vous serez désarmé par force. Donc ça, je pense que le PDSS a péché, parce que là, il faut très clairement le dire. Alors, je reviens maintenant sur son argument principal selon lequel toutes les stratégies sécuritaires du gouvernement ont échoué. Alors là, j'en profite pour dire qu'effectivement, les stratégies du gouvernement étaient en deux phasages avec les dynamiques du terrain, parce que ce sont des stratégies qui s'attaquaient plutôt aux conséquences et non pas aux racines de problèmes, alors que les crises sécuritaires étaient structurelles et pour effectivement les résoudre efficacement, il ne fallait pas des approches conjoncturelles comme on l'a vu ces derniers temps avec le gouvernement. Donc voilà ce qu'il fallait dire à ce sujet-là. Et peut-être pour être complet sur ces chapitres, vous avez dit tantôt qu'on a enregistré la réduction des groupes armés. Alors je voudrais remettre le débat au centre parce que je suivis d'ailleurs de très près l'avancement du processus en PDRC Sanitouri notamment. Effectivement, depuis le mois d'avril, je pense le 17 avril, lorsque le site pilote de Diango a été lancé, on a reçu jusqu'à aujourd'hui une centaine de militaires. Et je dis bien une centaine de militaires et le processus n'a pas avancé. Et d'ailleurs, ces combattants qu'on est en train de présenter, je voudrais le dire très clairement, ils appartiennent à quels groupes armés? Ils appartiennent respectivement à des ailes dissidentes de Codeco. Il s'agit de l'ARDPC, d'Ingabungawi, et aussi une autre aile, je pense, en dissidente de la FPIC. Mais curieusement, ce sont des groupes armés qui n'étaient plus actifs depuis très longtemps et qui ne contrôlaient, n'est-ce pas, aucune entité. Ça doit être très clairement dit. Alors que les groupes armés les plus violents qui devraient adhérer à ce processus-là n'ont jamais, n'est-ce pas, ne se sont pas rendus C'est là où je n'étais pas d'accord avec Tommy, je m'excuse, hein, au Sundi, lorsqu'il parlait notamment des groupes armés réfractaires. Non, on ne peut pas parler des groupes armés réfractaires pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu adhésion au programme du PDSS. Je pense qu'on doit se le dire très clairement. Il n'y a pas eu une adhésion et d'ailleurs aucun groupe armé, et aucun, surtout en Ituri, les groupes armés les plus violents, je ne connais aucun qui a exprimé, n'est-ce pas, son intention de se rendre. Et enfin, je voudrais terminer par là. Je pense que c'est aussi le service de sécurité qui n'ont pas fait leur travail. Vous savez, aujourd'hui, la montée en puissance des groupes armés en Ituri, notamment, s'inscrit dans le cadre de l'état de siège, ou d'ailleurs de pression militaire devait s'accroître sur les groupes armés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et cela a apparu comme un chèque à blanc qu'on a accordé à ces groupes armés de continuer à tuer, de continuer à contrôler des pans entiers du territoire. Et moi, je me dis que à l'allure où les choses sont en train d'avancer, nous sommes en train davantage de reculer. Alors, tout à l'heure, Tommy Ushindi ne voulait pas reconnaître qu'il y a la déficience, il y a le déficit de moyens. Nous devons le dire très clairement, il y a effectivement la déficience de moyens. Vous savez, depuis le mois d'avril, il n'y a qu'un seul site pilote qui a été lancé, et puis le PDSS n'a pas été à mesure de faire fonctionner ce site-là. Quand vous vous rendez sur ce site, d'ailleurs c'est grâce aussi à l'appui de la MONUSCO, effectivement, et même les intrants médicaux, et moi je me suis rendu là-bas, les combattants qui sont là devraient parfois se rendre au niveau de l'hôpital, de l'armée, au camp de Romo pour se faire soigner. Voyez-vous, donc la prise en charge fait déjà défaut.
Merci, professeur. Merci, professeur Chaubert Aguenonga. Merci, professeur Chaubert Aguenonga. Le souci des auditeurs, c'est que vous puissiez continuer, mais aux questions qui se posent, il est aussi nécessaire d'être succinct pour nous permettre d'avoir un timing d'émission, sinon on n'arrive à rien faire. Mais vous avez parlé et nous espérons que vous n'allez pas estimer que nous vous avons empêché de parler. Nous allons conclure cette émission. Professeur Aguenonga, nous avons compris les observations que vous faites au PDDRCS. Maintenant, quelle solution ou quelle est la solution, s'il y en a plusieurs, vous le dites aussi, pour arriver à mettre fin au phénomène groupes armés partout en République démocratique du Congo et surtout... Que peut faire, selon vous, de manière très précise, le PDDRCS pour être plus efficace une bonne fois pour toutes?
D'abord, premièrement, l'approche doit être globale. L'approche doit être globale pour dire qu'il faudrait effectivement améliorer la capacité opérationnelle de l'armée, en termes notamment de la logistique, des moyens de projection. Il faut renforcer également les effectifs, parce que tant que l'armée est un maillon faible dans ce processus, je n'imagine pas qu'un seul combattant puisse rentrer. Et ensuite, en ce qui concerne le PDSS, le PDSS va rentrer dans ce que nous appelons la justice transitionnelle, qui voudrait bien qu'on renforce aussi la justice, parce que vous savez, en Ituri, tout comme dans d'autres provinces, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis et des crimes qui ne doivent pas rester impunis. Donc, il faudrait réprimer sévèrement tous les auteurs de ce groupe armé. Et en ce qui concerne le PDSS, je pense un peu premièrement, il faudrait repenser les stratégies. Comme je le dis, le PDSS doit revoir sa planification, n'est-ce pas, très clairement, et il faudrait que la participation soit multi-acteur. Donc, il faut y impliquer effectivement les bailleurs de fonds, ça c'est très important, mais aussi il faut une appropriation au niveau de toutes les parties prenantes, les groupes armés, n'est-ce pas, les communautés locales, ainsi de suite. Et je pense que enfin,
merci,
le PDSS doit aussi revoir sa stratégie de recrutement. Tommy Ushindi n'a pas reconnu qu'il a nommé des centaines d'agents en dehors de ce qu'il était.
Vous l'avez déjà dit, professeur.
À l'issue des concours, moi je ne pense pas. S'il y en a qui ont été recrutés à la suite d'un concours, on n'en disconvient pas.
Merci, professeur Aguenonga. Vous l'avez déjà dit, hein, l'argumentation sur ce sujet, vous l'avez suffisamment éclairé et on vous a entendu. Merci, Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes resté focalisé sur votre analyse qui établit, selon vous, que si le PDDRCS ne fonctionne pas et n'apporte pas les résultats attendus, c'est parce que le programme a des problèmes et surtout que les animateurs eux-mêmes sont des problèmes. Vous pensez que si d'un coup on met les animateurs de côté et qu'on met d'autres animateurs avec d'autres idées, la CODECO et les groupes armés vont cesser d'avoir de l'activisme là où il y en a?
Non, il faut dire ici qu'il faut relever M. Tommy Tambwe de ce programme-là. D'aider, il faut décentraliser le programme et l'adapter au niveau des chefferies et des secteurs. De trois, il faut bien dire, il faut des critères objectifs pour sélectionner ceux qui vont animer ce programme à la base. Parce que tout simplement, on a constaté d'une supercherie et d'autres viennent d'être d'ailleurs des candidats aux élections. Alors, il faut dépolitiser même ces programmes-là pour que tous les groupes armés s'y retrouvent. Voilà. Donc, je crois que si Merci. On respecte les trois recommandations que je viens de donner, tout doit aller mieux.
Merci beaucoup, Placide Nzilamba, membre de la société civile au Nord Kivu. Tony Tambwe, coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Nous sommes en train de terminer cette émission. Qu'avez-vous à répondre à l'ensemble des critiques et des commentaires pour ce soir? Et quelles sont les prochaines actions du PDD-RCS pour atteindre les résultats attendus?
Oui, merci beaucoup. Je me dis que aujourd'hui j'ai eu à débattre avec des politiciens plutôt que de la société civile et des chercheurs. J'ai eu également à constater que le programme a des chiffres. Même si on veut ne pas les reconnaître aujourd'hui, il y a des chiffres palpables.
Vous pouvez en citer quelques-uns en passant. On n'aura pas tout le temps, malheureusement.
Voilà.
Citez-en quelques-uns pour qu'on puisse comprendre.
Diango, G145, Bobambiro, 1523.
Vous parlez des redditions?
Oui, je parle des redditions.
D'accord.
Je suis aujourd'hui à 3500, sur toute l'étendue, et je vois en dehors.
Mais quels sont ces groupes armés qui se sont rendus? On peut avoir une idée?
Mais il y a tout. Tout est dans le travail ici.
Parce qu'on allègue que tous les groupes armés costauds, les plus influents, ne se rendent pas.
C'est lui qui l'a dit. Mais nous disons, tous les groupes armés, il y a un principe, d'abord, quand quelqu'un sera au PDDSS, il cesse d'être dans son groupe. Il vient en tant qu'individu avec son arme et ses effets militaires. Alors, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Deuxième chose qu'il faut savoir, le PDDS n'est pas militaire, il est civil. Donc nous ne sommes pas chargés des opérations militaires. Ça, c'est l'affaire de l'armée. Troisième principe qu'il faut reconnaître ici, la justice transitionnelle est un segment du PDDS. Parmi les autres segments de la paix, résolution de conflits, réconciliation, donc la justice transitionnelle fait partie. Et nous y travaillons, nous sommes membres. Autre chose, le PDDRCS a une approche globale et holistique. Il n'est pas seulement isolé pour faire le désarmement. Nous faisons le relèvement communautaire. Il faut voir ce que nous avons déjà fait à Lubero. Il faut voir ce que nous avons fait à Beni. Il faut aller à Uvira pour savoir ce que nous faisons exactement. Et si je vous montrais les images et tout ce que nous faisons, vous serez même très étonné. Et là, je mets au défi celui qui parle, Nzilamba, je mets au défi même mon frère, qu'il aille voir dans d'autres provinces, Tanganyika et partout ailleurs, il va voir que le PDDS se porte bien.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On aura d'autres occasions pour aller encore en profondeur sur ces questions de groupes armés et sur le travail des programmes qui y participent. Polydor Basunga, Guy Maté, Clément Chimanga et Jonathan Fouanani m'ont aidé à produire cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.